Eh bien, bonjour à tous et toutes, bienvenue pour ce webinaire concernant les directeurs du premier degré. Avant que nous nous présentions, on va vous donner les règles de gestion un peu de ce webinaire et la manière dont nous allons vous présenter les directions des écoles primaires dans le réseau. L'objectif du webinaire étant simplement de vous donner des informations générales sur le réseau de l'AEFE pour ceux qui ne le connaissent pas et des informations sur vos futures candidatures pour postuler sur ces postes qui sont parus sur le dernier BO et sur le site de l'agence qui vous permettent de postuler sur des postes de directeur d'école dans le réseau de l'AEFE. Et donc, qui présente, c'est toi?
Allez,
Allez.
j'y vais. Peut-être vous préciser, mais vous l'avez remarqué, vos micros sont coupés d'office. Normalement, vos caméras sont coupées également. Nous vous inviterons à échanger avec nous et exclusivement avec nous par chat, hein, ce qui veut dire que le chat ne sera pas partagé par tout le monde. Dans un premier temps, on vous demandera d'utiliser le chat uniquement pour nous signaler des problèmes techniques, hein, et dans un second temps, ensuite, vous pourrez échanger, poser des questions. Alors, pas forcément des questions très personnel. Pour cela, vous verrez qu'en fin de diaporama, vous aurez les coordonnées de la gestionnaire que vous pourrez joindre pour des renseignements très personnels. Nous tenterons de répondre aux questions qui reviennent les plus fréquemment. Dernière petite chose, vous avez remarqué, vous avez dû normalement accepter le fait que le présent webinaire est enregistré. Il sera mis en ligne sur le site de l'AEFE pour les collègues qui n'auraient pas pu se rendre disponibles. Alors, ce ne sera pas en vidéo, on ne verra pas du tout, on ne verra personne, on n'entendra donc personne, on ne verra pas le chat, c'est uniquement l'enregistrement et les échanges que nous aurons pu avoir autour de la table ici à Nantes.
Merci. Donc, mais on va se présenter si vous en êtes d'accord. Allons-y.
Eh bien, Christine Charbeau-Sandoux, voilà, du bureau du recrutement, référente sur ce recrutement du premier degré, et l'adjointe de Madame Chartier.
Je suis Fabienne Chartier, la chef du bureau du recrutement à la DRH de l'AEFE.
Virginie Chupin, la DRH adjointe du réseau.
Et Bernard Pujol, le directeur des ressources humaines de l'AEFE. Pour commencer ce webinaire et pour les gens qui ne connaissent pas encore l'AEFE, je vais essayer de dresser un petit portrait de ce qu'est cette agence pour l'enseignement français à l'étranger et de vous donner aussi la ligne un petit peu, le contexte général dans lequel nous évoluons aujourd'hui, suite, si vous voulez, à la pandémie, par exemple, et aux évolutions qu'il y a eu ces dernières années sur le réseau. Alors, ce réseau des lycées français à l'étranger, il a été créé en 1990 et il regroupe aujourd'hui 566 établissements dans 136 pays. Et nous scolarisons à cette rentrée, grosso modo, 390 000 élèves. Donc, ce réseau, et ce qui est important pour vous, pour ceux qui nous découvrent, c'est que l'Agence pour l'enseignement français est un opérateur du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et donc, nous sommes, si vous voulez, sous la tutelle directe du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Donc, vous allez devoir, si vous êtes recruté chez nous, on va quitter, on va s'absenter pendant le temps du contrat du ministère de l'Éducation nationale, pour ceux qui sont à l'Éducation nationale, ou de notre ministère, si vous êtes dans un autre ministère et que vous souhaitez candidater chez nous. À condition que vous soyez titulaire de la fonction publique, puisque c'est le cadre essentiel de vos candidatures. Donc, en revanche, nous gardons un lien très étroit avec le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Et ce lien très étroit, il est autour d'un mot qui est capital dans vos missions et dans vos fonctions, qui est l'homologation des lycées français à l'étranger. L'homologation, qui n'est donnée d'ailleurs que par le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, atteste que les établissements dans lesquels vous allez travailler, que les équipes que vous allez diriger, que les enseignants qui vont être sous votre autorité vont appliquer les textes et exactement les programmes de l'enseignement français dans les lycées à l'étranger. Et c'est ce qui fait un peu la spécificité de notre réseau, puisque une autre spécificité de ces établissements français à l'étranger, c'est que nous scolarisons des enfants de la maternelle à la terminale. Et donc, vous allez être dans cette première partie, le premier degré, avec certainement la partie maternelle de l'élémentaire. Et puis, peut-être, après vous, il y aura du collège et du lycée, suivant les établissements pour lesquels vous candidatez. Donc, une structure complète dans un établissement français à l'étranger. Et dans votre position de directeur d'école, vous allez être un des adjoints du proviseur de l'établissement qui est en charge et en responsabilité de cet établissement. Rapidement, voilà un peu l'histoire très succincte de ce réseau, qui a été ensuite géré par un décret qu'on a appelé le décret 2022, qui a créé les statuts des personnels qui étaient titulaires et qui étaient dans le réseau. Cette année, nous avons bousculé un petit peu ce décret, puisque nous avons modifié le décret, et un nouveau décret qui modifie le décret 2022, qui date du 16 juin 2022, donc on a un décret 2002 et on a un décret 2022, a fait évoluer le statut des personnels. Par le passé, pour ceux qui sont certains, et j'ai vu des noms passés que je connais, nous avions des personnels résidents et des personnels expatriés. Vous vous candidatez là sur un poste ex-poste d'expatrié. Aujourd'hui, avec ce nouveau statut, nous avons trois catégories de personnels. Des personnels d'encadrement, dont si vous allez faire partie, si nous vous retenons, des personnels formateurs, qui sont pour le premier degré, par exemple, des EMFE et des CPAIEN, et des personnels d'enseignement, d'éducation ou d'administration, qui seront la catégorie 3 qui va être mise en œuvre à partir de la rentrée 2023. Pourquoi nous avons dû modifier cela? L'objectif est que vous puissiez être recruté, enfin vous les expatriés, c'était beaucoup plus facile, les ex-expatriés, mais c'était pour que tous les personnels puissent avoir, si vous voulez, un contrat qui démarre au premier jour du recrutement effectif dans le pays où vous avez été recruté. Dans le cadre général de ce réseau, ce qui génère aussi, qui a généré toutes ces demandes et ces évolutions, c'est que depuis maintenant 2018, le président de la République avait engagé l'AEFE sur un plan de développement, puisqu'il avait demandé à ce que nous atteignions 700 000 élèves pour 2030, c'est-à-dire on avait un objectif, 2030, 700 000 élèves. Il est vrai qu'aujourd'hui, avec les deux années de pandémie que nous avons vécues, nous n'avons pas eu la progression que nous estimions possible. En revanche, là, pour la première fois depuis deux ans, nous avons une rentrée normale et nous avons le sentiment qu'une progression des effectifs dans les établissements est en train de nouveau d'apparaître et de conforter un petit peu cette analyse-là. Le président de la République a répété ça à nos ambassadeurs il y a 15 jours à Paris, parce que les lycées français à l'étranger sont des éléments importants de la politique d'influence de la France dans les pays dans lesquels nous sommes. Et le lycée, au même titre que l'Alliance française, au même titre que les services culturels de coopération et d'action culturelle, travaillent sur cette diplomatie d'influence. Et aujourd'hui, l'agence assume totalement cette place. Donc, il est important pour notre autorité politique que nous développions ce réseau, parce qu'aujourd'hui, il est un des seuls réseaux présents dans 136 pays et avec un véritable affichage qui tourne autour d'un mot dont vous entendrez parler ou que vous avez lu, qui est l'excellence. Et je dis bien excellence et pas élitisme. Le réseau des lycées français et ce pourquoi vous allez devoir vous engager, c'est assurer une excellence pour tous. Et que tout enfant qui rentre chez nous trouve sa place dans l'école, sa progression et une poursuite d'études la plus importante possible. Pour ce développement du réseau, nous avons trois types d'établissements qui sont à disposition de ce réseau. Des établissements à gestion directe, qui sont en fait les gros établissements du réseau, on en a 76, on en a beaucoup en Europe, un seul en Amérique par exemple. Ces établissements sont des démembrements un petit peu de l'AEFE. Ils se rapprochent beaucoup d'un établissement public français. Ils sont pilotés à la fois budgétairement et au niveau comptable par directement l'AEFE. Nous avons une deuxième catégorie d'établissements qui sont des établissements conventionnés. Ces établissements sont des établissements qui sont gérés par des associations de parents d'élèves, des comités de gestion, ou bien on appelle ça des boards dans les pays anglophones ou des juntas dans les pays hispanisants. Pardon. Et donc, la spécificité de ces BAHU, c'est que la gestion est confiée à des parents ou à une association. Il n'empêche que par le biais de la convention, l'agence nomme dans ces établissements ses équipes d'encadrement et nomme dans ces établissements des personnels détachés, qu'ils peuvent être des formateurs de catégorie 2, mais aussi des enseignants ou des personnels administratifs ou d'éducation. Et donc, il y a un lien qui est créé autour de cette convention qui fait qu'il y a un accompagnement complet de l'établissement par l'AEFE et notamment sur la partie pédagogique par la direction de l'enseignement, de l'orientation et de la formation autour, pour vous, des inspecteurs de l'éducation nationale qui sont en poste dans le réseau. Nous en avons 17. Et pour le reste, pour des inspecteurs pédagogiques régionaux des différentes disciplines. Et enfin, on a une troisième et dernière catégorie d'établissements. C'est une catégorie qui se développe parce que c'est grâce à elle, notamment, que le développement du réseau va se faire. Ce sont des établissements que l'on appelle partenaires, donc ils ont un accord de partenariat avec l'agence, mais ce sont des entreprises totalement privées. C'est-à-dire que la gestion, le recrutement est assuré totalement par le comité de gestion ou par la personne qui a monté cette école et qui en fait, si vous voulez, un système français. La seule chose importante à retenir, c'est que même ces écoles partenaires qui font partie du réseau sont donc des écoles homologuées. Et étant des écoles homologuées, elles ont donc la possibilité d'intégrer ce réseau des lycées français de l'étranger, même si nous ne pilotons pas ces établissements et nous ne mettons pas de personnel détaché à disposition de ces établissements-là. Donc, c'est bien une structure, voyez, à trois étages que nous pilotons et avec, si vous voulez, aujourd'hui, 5871 personnels détachés dans le réseau qui se décomposent sur les trois catégories que j'ai déjà exprimées auparavant. Donc, voilà assez rapidement, et je le sais un peu succinctement, présenter à la fois l'histoire, présenter à la fois si vous voulez, le cadre général aujourd'hui de ce réseau. En revanche, si vous voulez plus d'informations et si vous voulez, et vous devrez chercher plus d'informations, ben, il va falloir que vous alliez sur le site de l'agence, que vous avez peut-être déjà fait, que vous alliez chercher des informations sur les établissements pour lesquels vous allez candidater. Voilà, je vais m'arrêter là dans un premier temps. Je reprendrai certainement la parole à d'autres moments. Et mes collègues ici présentes vont pouvoir continuer à vous présenter différents éléments autour de cette candidature possible que vous allez faire au sein du réseau des lycées français à l'étranger.
Bien. Eh bien, bonjour à tous. Je suis donc Christine Charmeau-Sandou. Et donc, référence sur ce recrutement du premier degré. Alors, à ce titre, je participe aujourd'hui à ce webinaire afin de tenter de vous apporter, en tout cas, je l'espère, des réponses à d'éventuels questionnements sur cette première étape qui est la procédure de candidature. Donc, j'imagine bien qu'à ce jour, vous avez entamé toutes vos démarches afin de candidater sur le site de CEDI. Alors, vous avez pu constater quelques nouveautés mises en place dans le cadre de cette nouvelle campagne de recrutement. Monsieur Pujol vient de le souligner. Elle est nouvelle à plus d'un titre, puisque dans la terminologie même, vous n'êtes plus des expatriés en devenir, mais bien des personnels détachés sur des fonctions de direction d'école, en l'occurrence. Une nouvelle procédure également qui nous engage, nous, bureau du recrutement, sur le chemin de la dématérialisation des dossiers de candidature. Alors, pratiquement, jusqu'au 29 septembre inclus, date butoir, vous pourrez donc saisir et valider votre dossier sur le site dédié. N'oubliez pas qu'à minuit une, vous ne pourrez plus le faire. Votre candidature ne sera donc plus recevable et nous ne récupérerons aucun dossier en dehors de ce créneau. Voilà, mais vous avez encore un petit peu de temps devant vous. C'est lors de cette validation que vous verrez apparaître les modalités pratiques d'adressage de votre dossier. Alors, quoi qu'il en soit, pas d'inquiétude, on a précisé d'ores et déjà, vous pouvez les consulter en fait sur le site de l'AEFE, à la page détachée sur mission d'encadrement directeur ou directrice d'école, en l'occurrence, et vous avez toutes les informations en fait, que je vais vous repréciser. Dans les grandes lignes, il vous sera demandé d'envoyer votre dossier avant avis en un seul fichier PDF. Alors, merci de bien vouloir le constituer dans l'ordre indiqué dans la rubrique « Documents à fournir » de votre dossier en ligne. Vous nous adressez ce dossier via France Transfert, qui vous enverra alors un accusé de réception. Première étape. Alors, allez à l'essentiel, soyez concis dans la constitution de ce dossier, il est inutile de trop l'étoffer d'éléments périphériques. Tout est détaillé, vous mettez les pièces à joindre et les pièces demandées, ça sera suffisant. En parallèle à ce que vous allez nous communiquer, deux cas de figure. Vous êtes en poste en France ou vous êtes en poste à l'étranger. Alors, concernant les personnels en poste en France, vous nous enverrez en fait votre dossier accompagné de toutes les pièces justifiées. Accompagné de toutes les pièces justificatives, votre dossier à votre IEN, qui, après avoir apposé son avis, l'enverra à l'IADAZEN. Alors, vous veillerez à ce que cet envoi soit fait au plus tard le 4 octobre. Le directeur des services départementaux nous adressera cette dernière page de votre dossier, revêtue également de son avis, qui est bien un avis donné sur la candidature. Alors, il est à souligner que l'avis du DAZEN est un incontournable. Nous ne pourrons en tout état de cause poursuivre ce processus de recrutement au vu d'un avis défavorable du DAZEN. Voilà, il faut le noter. Alors, concernant les personnels en poste à l'étranger, vous adresserez en parallèle deux copies de votre dossier accompagnées de toutes les pièces justificatives, bien entendu. Alors, une première copie à votre chef d'établissement qui, après avis, le transmet à l'IEN de résidence, qui, à son tour, après avis, l'adressera au conseiller de coopération d'action culturelle. Le COCAC enverra cette dernière page des avis au bureau du recrutement. Alors là, merci également de veiller à ce que cet envoi soit fait au plus tard le 4 octobre. Vous enverrez parallèlement une deuxième copie de votre dossier à l'IADAZEN, évidemment, de votre département de rattachement. Celui-ci enverra au bureau du recrutement à l'adresse indiquée la dernière page de votre dossier revêtue de son avis. À réception de l'ensemble des pièces, le bureau du recrutement vous adressera là un courriel qui vous indiquera d'une part la bonne réception de toutes les pièces du dossier, mais aussi sa recevabilité. Alors, ce message vous confirmera ainsi l'enregistrement de votre dossier de candidature en bonne et due forme. Si vous n'avez pas de nouvelles à ce sujet d'ici le 2 novembre, alors là, vous n'hésitez pas à revenir vers moi et sachez quand même que nous allons collecter en fait tous ces avis tout au long du mois d'octobre. On sera très attentif à ce suivi, bien sûr. Donc, après cette première étape pratique passée, nous entamons en fait au bureau de recrutement l'étude des dossiers afin de mener à bien la phase de sélection des candidats qui seront retenus en entretien. Alors, cette sélection, elle s'opère selon des critères qui sont clairement indiqués lors de la saisie de votre dossier et dans les profils, tout simplement, de poste. On a des attendus précis qui sont tout à fait clairs. Vous postulez donc sur des postes de direction d'école. Il vous faut donc être à minima titulaire de la fonction publique depuis au moins 2 ans. Être actuellement directeur ou l'avoir été récemment. Alors, posséder une expérience de direction d'au moins 8 classes, environ, c'est des choses qu'on apprécie en fonction des dossiers. Justifier d'une inscription sur la liste d'aptitude sur des fonctions de direction d'école. Et alors, petite précision, l'obtention d'un CAFIPEMF est largement appréciée, mais reste bien évidemment facultatif. Ce n'est pas du tout rédhibitoire sur une candidature de directeur d'école. Alors, vous noterez qu'effectivement, l'expérience est essentielle. C'est elle qui, en priorité, vous permettra d'accéder à cette phase d'entretien. Après la sélection interne effectuée par l'agence, le bureau du recrutement prépare alors les invitations à ces entretiens. Alors, des entretiens, oui, c'est à noter aussi, qui se dérouleront donc du 25 janvier au 15 février 2023 environ. Vous serez bien sûr tous prévenus de la suite donnée à votre candidature une semaine avant le début des entretiens, par courriel, alors expédié à l'adresse de messagerie que vous avez indiquée dans votre dossier. Je précise d'ailleurs à ce sujet que veillez à bien mettre une adresse personnelle parce que nous avons rencontré par le passé quelques soucis avec les adresses académiques. Alors, à cette étape, donc dans la rédaction de ce mail, vous verrez, il y a 2 possibilités. Un entretien vous est proposé, selon des modalités qui seront définies dans le cadre de ce mail. Ou alors, vous ne satisfaisez pas aux conditions attendues et nous vous envoyons également un courriel succinct sur le pourquoi de cette non-sélection en entretien. Alors, pour l'entretien, à proprement parler, il dure une 30aine de minutes, 10 minutes où qui vous sont consacrées entièrement. Vous vous emploierez à vous présenter, à présenter bien sûr votre projet d'expatriation, et 20 minutes qui seront consacrées ensuite à un échange avec l'ensemble de la commission. Cette commission est constituée d'un représentant du service pédagogique, bien évidemment, d'un représentant de la direction du développement et de l'appui du réseau. Alors, si cette terminologie ne vous parle pas, je vous engage vraiment à aller voir sur le site de l'agence, qui est très riche, hein, et vraiment, il vous sera précieux d'ailleurs dans le cadre de cette préparation à l'entretien, et bien sûr d'un représentant de la DRH. Alors, cet entretien, il a pour but de mettre en évidence, évidemment, vos motivations, vos qualités personnelles, les atouts, bien sûr, de votre parcours professionnel, et l'adéquation de votre candidature aux différents postes sollicités. Alors, postes sollicités au pluriel. Un focus sur un seul poste très attractif peut vous desservir. Hein. C'est un élément mathématique assez simple hein, qui vous permettra de comprendre la nature de la difficulté du recruteur hein, qui cherche à constituer un vivier. Actuellement, on est sur 32 postes de direction. On a un ratio à peu près de 3 candidats par poste hein, à retenir en entretien, ce qui est voilà, déjà pas mal. Qui nous amène donc, si vous faites le calcul, à une centaine d'entretiens à prévoir uniquement pour la direction d'école. D'où l'intérêt, vous comprendrez bien qu'un vu unique ne va pas multiplier vos chances d'être retenu en entretien, c'est compliqué en fait. Bon, ceci étant dit, à l'issue des entretiens, la commission consultative paritaire centrale validera la commission, oui, la CCPC, elle se tiendra le 28 février. Une fois ces propositions validées par la commission, alors on vous envoie un courrier, hein, bien évidemment. Là aussi, trois cas de figure. Un refus à l'issue de l'entretien qui vous est notifié, une proposition de poste en bonne et due forme ou un positionnement sur la liste de réserve. Alors, pour précision, il ne s'agit pas du tout d'une liste par défaut. La commission a reconnu la pertinence de votre candidature. Mais n'a pu croiser les intérêts propres à chacun, hein, c'est-à-dire d'un côté l'intérêt du recruteur, de l'autre côté l'intérêt du candidat. Alors c'est une situation qu'on rencontre souvent lorsque vous faites peu de vœux et dans une seule zone géographique, par exemple. Donc là, effectivement, on peut être amené à vous retenir, mais sur une liste de réserve, parce qu'on n'a pas trouvé la bonne adéquation au poste. Donc le bureau du recrutement va gérer ensuite l'ensemble de ce suivi. Je précise quand même, c'est important qu'une seule proposition de poste vous sera faite. Donc, il ne faut pas se tromper, en fait. Vous aurez quelques jours pour réfléchir et vous rapprocher à cette étape du gestionnaire qui va gérer votre dossier tout au long de la mission, de votre mission, hein, si vous l'acceptez, bien sûr. Vous avez également toute liberté de refuser cette proposition à cette étape. N'oubliez pas toutefois que le poste proposé est sous réserve. Deux conditions essentielles au départ, hein, quand même, hein, doivent être actées par le bureau du recrutement. C'est l'accord de détachement délivré par l'éducation nationale, par le MENJ, et l'agrément qui est accordé par le poste diplomatique. Ça, ce sont également des incontournables. Le bureau, évidemment, du recrutement se charge de ces démarches et de leur suivi. C'est la délivrance de ces documents qui marque la fin du recrutement. Votre dossier sera alors transféré auprès de votre gestionnaire au bureau de la gestion administrative et financière. Écoutez, merci pour votre écoute dans l'immédiat. Voilà.
Merci beaucoup, Christine.
En quelques petites précisions, justement, administratives. Vous arriverez, si vous êtes recruté, en contrat à l'agence, sur un contrat d'une durée initiale de 3 ans, qui sera susceptible d'être renouvelé 2 fois pour 1 an. Donc, c'est 3 plus 1 plus 1. 5 ans maximum au total, avec la possibilité de faire une seconde mission dans le réseau, mais pas dans le même pays. En termes de rémunération, peut-être juste préciser que de toute façon, ce contrat, comme l'a dit ma collègue juste avant, il est lié au détachement et à l'octroi du détachement par votre administration d'origine et donc par la durée du détachement qui est accordée. En règle générale, lorsqu'on a la première période de 3 ans pour le contrat initial, le 1 plus 1, en règle générale, ne pose pas de problème. En termes de rémunération, alors votre rémunération principale, c'est votre traitement brut indiciaire actuel, celui que vous détenez dans votre corps, grade et échelon. Et cette rémunération indiciaire, elle n'évoluera pas pendant la première période de contrat de 3 ans. Si vous avez une promotion d'échelon, eh bien, votre promotion d'échelon, vous en bénéficierez dans votre administration d'origine. Vous paierez en revanche la pension civile sur ce nouvel indice, mais vous n'aurez pas une augmentation de votre rémunération liée à cette promotion. Voilà, c'est ce qu'on appelle le gel d'indice. Cette promotion et ce changement d'échelon et d'indice pourra être prise en considération au moment du renouvellement sur la deuxième, sur la quatrième, voire la cinquième année de contrat. Donc, comme je l'ai mentionné, vous restez fonctionnaire, vous cotisez à la pension civile au même taux que celui que vous avez actuellement. Et vous allez percevoir, en complément de cette rémunération de base, une indemnité géographique et de fonction spécifique qui est liée au pays d'affectation et qui prend en compte les conditions de vie dans le pays. Elle est fixée par pays en fonction des conditions sécuritaires, sanitaires, sociales. Elle est donc variable dans son montant pour prendre en considération tous ces éléments, permettre le logement et ainsi de suite. Elle est fixée par le ministère des Affaires étrangères et elle est revalorisée, je ne sais plus, tous les...
Ça dépend, en fait, c'est tous les trois mois que ce qu'on appelle l'indemnité d'expatriation est revue et elle a un impact, bien sûr, chez nous sur notre indemnité géographique.
Alors, on a en complément de cette indemnité géographique et de fonction spécifique, si vous avez des enfants dont vous avez la charge effective au sens du SFT actuel, vous pouvez prétendre à des majorations familiales qui remplacent donc le supplément familial de traitement et qui visent, entre autres, à couvrir les frais de scolarité des enfants à l'étranger. Puisque, certes, l'AEFE et nos établissements ont une mission de service public aussi, d'enseignement, mais contrairement aux établissements français, la scolarité est payante. Et elle peut être également là variable d'un pays à un autre. Alors, toujours en parlant de scolarisation, on a souvent la question de savoir si j'ai des enfants, aurais-je une place assurée pour mon enfant dans l'établissement dans lequel je serai affectée ? C'est pour nous un peu un principe de bon sens et la réponse, c'est oui, il n'y a pas de liste d'attente ou autre. Après, attention, nous scolarisons et de la maternelle à la terminale sur l'enseignement général et pas technique ou technologique. Donc, attention, vous ne trouverez peut-être pas forcément et pas forcément sur tous les niveaux, dans tous les pays et dans tous les établissements. Voilà. On parlait d'homologation en début de ce webinaire. Il se peut qu'un établissement ait jusqu'à un certain niveau et jusqu'à certaines classes, son homologation et soit en cours pour la suite. Ou, voilà. Vous pouvez très bien vous retrouver dans un établissement qui ne scolarise les enfants que jusqu'à la sixième. Donc, il y a des solutions après, hein, le CNED. Il se peut qu'il y ait dans le pays aussi d'autres établissements. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de la question. Je reviendrai pas sur les indemnités complémentaires, ISAE, etc. Ça, c'est vous verrez sur le site les indemnités auxquelles vous pouvez prétendre. Pour les directeurs d'école, il y a la bonification indiciaire qui est variable en fonction du nombre de classes. Voilà, je pense que...
Voilà. En complément de ces éléments de rémunération, il y a aussi un élément important, c'est la prise en charge par l'agence, en fait, à la fois des frais de voyage et d'une indemnité en fait, de prise en charge des frais de changement de résidence. Donc, c'est le même principe pour vous, votre conjoint et vos enfants à charge. L'agence prend en charge le voyage pour partir, donc pour prendre votre poste à l'étranger, pour en revenir. On prend en charge aussi le retour. Et pendant la durée du contrat, vous avez droit aussi à la prise en charge de voyage de congé. Pour vous, votre famille, toujours le même principe. Et la périodicité en fait, de ce droit à congé varie suivant les pays. Ça peut être soit tous les ans, soit tous les 2 ans, soit tous les 3 ans. C'est un arrêté ministériel qui fixe les temps de séjour pour avoir droit à ces voyages de congé. Il y a également le versement d'une indemnité de changement de résidence qui varie là aussi en fonction du lieu de départ et du lieu de nomination et de la composition de la famille. Mais bon, elle permet la prise en charge d'un déménagement, je dirais, raisonnable quelque part, et qui est versé forfaitairement pour 80% du montant, et les 20% restants sont versés sur production de facture pour obtenir l'intégralité en fait, du versement de cette indemnité de changement de résidence. Voilà pour les éléments concernant le voyage et l'ICR, l'indemnité de changement de résidence.
Moi, je voudrais revenir une seconde sur les vœux, parce que c'est un élément quand même fondamental. Ça a été dit par Mme Sandeau sur la nécessité d'avoir plusieurs vœux. Je crois qu'il est important que vous soyez très explicite avec cela. C'est-à-dire, si vous avez... nous, on va regarder, si vous voulez, que le vœu unique, je vais être très clair, le vœu unique, ça ne nous intéresse pas vraiment, parce que vous ne candidatez pas dans le réseau pour aller à un seul endroit. Vous candidatez dans le réseau, non pas parce que vous cherchez, vous avez une volonté d'aller dans un pays que vous connaissez, dans une région que vous connaissez, mais surtout vous devez avoir envie de transmettre le système éducatif français et le service public français à l'étranger. C'est ça qui doit être votre motivation. Si vous partez pour d'autres raisons, qui peuvent être des raisons financières, par exemple, je crois que, ou peut-être personnelles, ou si vous essayez de fuir quelque chose, réfléchissez à tout ça, ça peut être quand même des motivations qui ne sont pas les bonnes par rapport à nos attendus et à la mission qui vous attend. Je reviens sur les vœux, donc. Essayez d'avoir un panel de vœux élargi, que ce panel de vœux corresponde aussi au parcours qui a été le vôtre, c'est-à-dire au parcours professionnel qui a déjà été le vôtre. Et donc, si vous avez déjà dirigé de grandes écoles, n'hésitez pas à demander une grande école. Si vous avez démarré sur une toute petite école de quelques classes, ce qui peut arriver, ne demandez pas de suite une direction de classe avec 30 classes, parce qu'on va se poser la question de la compétence acquise et de la capacité à se projeter sur une grosse direction. C'est ce regard-là qui est nécessaire. Donc nous, on va prendre ça en considération, à vous de nous convaincre après, lors de l'entretien, si vous êtes invité, que vous avez ce potentiel et que l'adéquation à ce poste est la bonne pour vous. Donc ça fait partie, si vous voulez, du choix des vœux. Si pour des raisons personnelles et explicites, vous nous dites, par exemple, je ne ferai aucun vœu sur l'Afrique, je prends l'Afrique au hasard, hein, parce que pour des raisons de sécurité dans certains pays, je ne veux pas y aller, on peut l'entendre. On entend tout ça. Ces raisons-là sont des raisons importantes que vous devrez expliciter lors de l'entretien si vous y êtes invité. Et il y a une dernière partie sur les vœux qui est aussi importante, c'est l'extension de vœux qui vous est aussi demandée dans le cadre du dossier que vous allez remplir. Et cette extension de vœux, pour nous, elle est importante, surtout s'il y a des vœux qui apparaissent ou des postes qui se déclarent en cours d'année. Vous êtes, par exemple, sur la liste de réserve, vous n'avez pas eu la chance d'être retenu de suite, hein, parce que ce n'est pas parce qu'on vous l'a dit que vous avez un mauvais dossier, mais l'adéquation au poste nous a fait pencher pour une autre candidature, mais vous êtes dans la liste de réserve. C'est-à-dire vous avez cette potentialité pour nous de diriger un établissement. Si un poste se libère en Asie et dans un pays d'Asie et que vous avez coché dans l'extension des vœux Asie, eh bien, nous serons amenés à vous proposer, alors on verra si vous êtes plusieurs, on va faire une analyse des dossiers, mais on sera amenés à vous proposer immédiatement un poste dans cette non pourvu à l'heure actuelle et qui vient de se déclarer vacant, parce que justement vous avez fait cette demande d'extension de vœux. Et ce n'est que si on n'arrivait pas à pourvoir ces postes que nous serons amenés à relancer une candidature et à faire une nouvelle publication et un nouvel appel à candidature. Mais tout ça, c'est dans la deuxième étape. Donc la notion des vœux, elle est importante. Et je terminerai sur un deuxième point qui est quand même fondamental, qui est aussi l'aspect vœux et culture. C'est-à-dire que les deux vont de pair, vœux, culture et langue. En fait, je pourrais rajouter cela. C'est-à-dire que... aujourd'hui, même si on est dans un lycée français qui enseigne en français, on est dans des pays hôtes qui nous accueillent, dont la langue du pays n'est pas ou rarement est le français. Donc il y a aussi une nécessité de maîtriser la langue du pays d'accueil de plus en plus. Alors je prends un exemple très clair, certains pays aujourd'hui nous demandent pour donner l'accord par exemple, une vraie maîtrise de la langue anglaise, par exemple, pour le Royaume-Uni, c'est très clair, mais ça peut être pour des pays d'Asie ou des pays du Moyen-Orient, parce que la langue du pays est en anglais. Si vous arrivez avec un niveau trop bas en anglais, même le poste diplomatique s'interrogera sur l'agrément, parce que la relation que vous aurez avec les parents d'élèves d'un côté, qui sont souvent des parents qui maîtrisent que la langue du pays d'accueil. Vous verrez, pas forcément des parents qui ont contact avec la France. Donc, il va falloir au moins les comprendre. Et on ne vous demande pas d'être tous bilingues, bien entendu, mais au moins avoir une compréhension de ce qui va se dire. Et ensuite, vous allez avoir dans vos équipes des personnels de droit local qui, parfois, ne parlent pas bien français. Et donc, lorsque vous allez faire des réunions, des conseils de cycle, des conseils de maître, vous allez être amené à écouter des collègues qui vont s'exprimer dans la langue du pays. Alors, il y a deux endroits où c'est capital, c'est l'Allemagne. L'Allemagne, on n'a pas le choix. Il faut une maîtrise de l'allemand. L'Amérique du Sud et les pays hispanophones, c'est la même chose. Une maîtrise minimale, et quand je dis minimale, c'est un B, un bon B, quoi, hein, un minima, qui vous permettra de bien comprendre ce qui se passe dans ces pays-là, parce que 90% des enfants que nous scolarisons sont des pays d'accueil, donc avec des parents qui sont des parents du pays dans lequel vous êtes affecté. Donc aujourd'hui, il faut être très clair, il vous faut une bonne maîtrise de la langue, et de l'anglais en particulier, puisque c'est quand même la langue qui sert dans la majorité de nos pays, avec ses spécificités allemand et espagnol, pour que vous soyez, si vous voulez, dans une... Alors, ça ne va pas être rédhibitoire, mais ça peut l'être, non pas par nous, hein, ça, on l'a vu cette année, mais par le poste diplomatique, parce qu'il y a une attente des parents d'élèves, notamment d'avoir en face d'eux quelqu'un qui maîtrise la langue de ce pays. Donc, pensez-y, c'est hyper important. Le dernier point que j'ai évoqué, c'est la culture. Le défi, en rejoignant l'agence... Ce n'est pas votre métier, parce qu'on espère que si vous êtes directeur en France, vous avez déjà les compétences requises. Et si on vous invite aux entretiens, c'est que on est sûr, du moins par l'analyse du dossier, par les avis qui sont portés, que vous avez une compétence métier. En revanche, l'enjeu, c'est l'expatriation. C'est-à-dire que vous partez, pour certains, dans un pays loin, vous vous éloignez de votre famille, vous vous éloignez de vos points de repère, et ça, ça se prépare. Ça se prépare. Et c'est au cœur de la réussite de votre mission. Vos enfants, votre conjoint, aura-t-il un travail ou n'aura-t-il pas de travail? Ben, moi, je vais vous dire au départ, il n'aura certainement pas un travail avec un statut de personne, si c'était quelqu'un de l'éducation nationale, avec un statut de personnel détaché. Pas du au démarrage, il faut être très clair là-dessus. Ça peut venir au cours de la mission, mais peut-être un poste en contrat de droit local. Et tout ça, il faut que ce soit très clair dès le début. Regardez bien ce que vous quittez, regardez bien vers où vous allez, et il ne faut pas que ce soit une expatriation par défaut. Il faut que ce soit une expatriation voulue dans un pays ou des pays sur lesquels vous avez une appétence, une attirance, et c'est normal, c'est aussi le but du jeu. Et notre objectif à nous, à la DRH qui vous accompagnons, il y a d'autres services qui vous accompagneront, c'est de faire en sorte que cette mission soit réussie, que ce soit que dans cette mission, il y ait un épanouissement personnel et professionnel qui vous permette pour certaines d'engager une deuxième mission, puisqu'on part peut-être pour deux missions consécutives, si la première est réussie et si ça s'est très bien passé. Donc, il faut que il y ait cet investissement qui va être le vôtre vous permettre de réussir cela. Et j'ai un dernier point quand même sur lequel je voudrais insister, c'est la charge de travail. Je crois qu'il faut que vous soyez conscient, et certains qui m'écoutent là le savent très bien. Il faut que vous soyez conscient. Je sais que vous travaillez déjà beaucoup en France, que être enseignant, directeur d'école, soit avec une décharge complète, soit avec une décharge moindre, c'est un engagement à la fois auprès des élèves, auprès des familles, à la fois dans la direction. Mais à la EFE, c'est trois fois plus que ce que vous vivez en France. Il faut être très clair là-dessus. C'est un engagement, d'abord parce qu'on est loin, et donc il y a un sentiment d'isolement, ensuite parce qu'on n'a pas les mêmes référents, et ensuite parce que les attentes des parents d'élèves qui scolarisent les enfants ne sont pas les mêmes. Donc vous allez avoir une charge de travail autour d'une équipe de direction, hein, qui va être décuplée par rapport à ce que vous avez connu. Je n'ai pas du tout envie de vous décourager, loin de là. Au contraire, j'ai besoin de vous, on a besoin de vous pour aller diriger des lycées français à l'étranger. En revanche, il faut que vous sachiez que cette image que l'on a des lycées français à l'étranger où on est sous les cocotiers et où on coince la bulle, permettez-moi l'expression, ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, on n'est pas là-dedans et les expériences passées, notamment de la COVID, avec l'organisation de l'enseignement à distance pour tous les établissements français à l'étranger, a donné beaucoup de travail aux équipes, bien sûr, aux équipes qui ont fait un travail remarquable, aux équipes d'encadrement qui ont aussi fait un travail remarquable dans cet engagement et qui a permis à l'AEFE de s'en sortir très, très bien alors que la situation était compliquée. Mais ça demande un travail, je dirais, très, très important. Et pour ceux qui ont déjà été à l'étranger, on est souvent là tôt le matin avant les enseignants, et c'est très bien. Et on part des fois tard le soir, après les enseignants, après des réunions d'équipe de direction, après des réunions de comité de gestion. Donc cet investissement, il est total. Et rien ne vous dit que vous n'aurez pas, et j'en suis certain, des week-ends où vous serez occupé professionnellement parce qu'il y aura des activités et que dans votre mission aussi, j'ai dit d'influence et d'accompagnement du post-diplomatique, on peut vous solliciter pour quelque chose qui se passe à l'Institut français, pour quelque chose qui se passera dans votre lycée. Donc c'est un engagement professionnel, ça doit être une réussite personnelle et professionnelle et il faut vous y préparer comme il faut. J'ai dit beaucoup de choses, c'est ça ?
Je crois que je n'ai pas grand-chose à ajouter. Effectivement, d'insister sur cette construction du projet, qui est un projet professionnel, projet familial, ça a beaucoup été évoqué. Effectivement, vous allez partir sur un contrat de 3 ans, plus de 2 fois 1 an, donc c'est un départ pour 5 ans. Ça se prépare. Moi, le meilleur conseil qu'on puisse vous donner, je crois que c'est aussi prendre contact avec les établissements, avec les collègues que vous allez remplacer, qui vont vraiment vous donner aussi des indications plus précises sur le contexte d'exercice, sur les spécificités du pays, sur la culture, sur la facilité aussi, quand vous partez en famille avec des enfants, sur la facilité d'adaptation. On a parfois de fausses représentations sur des pays. On se dit, je ne veux pas partir en Amérique du Sud. Et si vous prenez contact, par exemple, avec un collègue, si vous avez un niveau d'espagnol suffisant, ben vous allez peut-être vous rendre compte qu'en fait, partir dans un pays d'Amérique du Sud, ça peut être une très belle opportunité professionnelle et un choix tout à fait pertinent pour un départ en famille. Donc, voilà, il faut vraiment que ce soit un projet construit. On ne veut pas du tout vous décourager, mais vous engager en fait à partir sur un projet réfléchi qui puisse être une réussite à la fois professionnelle et familiale. On a évoqué rapidement effectivement la question de l'emploi du conjoint. C'est vrai que l'agence ne peut pas s'engager à ce que votre conjoint ait un poste. Si le conjoint est enseignant, potentiellement, il peut y avoir des postes de détachés d'enseignants qui sont proposés avec une campagne qui commence au mois de décembre, sans aucune assurance. Il peut y avoir des postes en contrat local ou dans le secteur privé. Mais voilà, nous, on ne peut pas s'engager à ce qu'il y ait un poste pour le conjoint, mais ça peut arriver. C'est des possibilités, effectivement, de départ qui peuvent être facilités. Pour revenir sur la scolarisation des enfants, c'est vrai que sur les postes de directeur d'école, je crois que cette année, on a quelques postes de directeur qu'on appelle faisant fonction de chef d'établissement. Donc, effectivement, dans ces écoles qui n'ont pas de scolarisation en direct en collège, bah, il peut y avoir toujours la possibilité de la scolarisation par le CNED. Et il y a des collègues dans le réseau qui scolarisent les enfants par le CNED pour le collège et qui font un contrat complet de cette façon. Donc voilà, vraiment, vous engagez à vous renseigner le plus possible auprès des personnes qui sont déjà sur place pour avoir une connaissance la plus fine possible de la réalité d'exercice.
Oui, effectivement.
Et Madame Schubert a évoqué tout à l'heure un élément fondamental sur lequel il faut qu'on insiste aussi, parce que là, on vous parle du départ, mais on ne peut pas ne pas vous parler du retour. Alors ça fait drôle parce que là on essaie de vous motiver, on essaie de vous donner des clés pour partir, mais on doit quand même vous parler du retour. Pourquoi ? Parce que premièrement, vous ne partez pas à vie dans le réseau des lycées français à l'étranger. Et il faut que vous sachiez qu'un départ, ça veut dire un retour, et que ce retour, il se fera dans votre département, et que le retour, il n'est pas aussi simple que ça. Tout d'abord parce que le métier est différent. Le métier de directeur d'école entre la France et l'étranger n'est pas tout à fait le même. D'abord parce que vous avez très souvent une décharge complète, très très souvent. D'abord parce que vous êtes amené à être, comme je l'ai dit, un adjoint du chef d'établissement et, si vous voulez, un appui technique sur la partie du premier degré. Vous allez piloter un grand conseil d'école, vous allez piloter de grandes équipes pour certains. Et donc, vous allez prendre une dimension qui est plus une dimension de chef d'établissement qu'une dimension de directeur d'école. Vous allez être aussi submergé de tâches administratives qui vont arriver très souvent. Il va falloir trouver ce juste équilibre entre le cœur du métier, qui est la pédagogie, sur lequel vous devez continuer à travailler et toujours travailler, puisque l'homologation, c'est quelque chose qui est remis en cause régulièrement, et puis la partie, avec le chef d'établissement, administrative, liée au pays d'accueil, liée à plein de choses comme ça. Donc ce métier est très différent. Et quand vous allez retourner en France, pour avoir participé à différentes réunions avec nos amis des différents départements, que ce soit des ressources humaines maintenant ou des secrétaires généraux, ben on arrive dans un inconnu total de ce qu'a été votre parcours à l'étranger. Peu importe si vous avez été directeur pendant 10 ans de 30 classes dans le réseau, on peut très bien vous proposer un poste de PE dans un petit village ou dans une école d'un centre-ville dans lequel vous souhaitez rentrer. C'est un vrai sujet, on y travaille avec nos amis de la DGRH du Maine, on y travaille avec la partie à l'international pour essayer au moins d'identifier votre parcours et que les DASEN, que les IEN aussi qui sont dans les départements, dans les circonscriptions, soient en capacité de connaître votre parcours pour en faire de vous des éléments ressources si jamais vous n'aviez pas une direction à votre retour. Mais c'est quand même un sujet qu'il faut que vous appréhendiez professionnellement et familialement. Parce que c'est vrai qu'on s'installe sur une durée limitée. Je le disais souvent à des élèves, et je peux vous le dire à vous, on ouvre un livre d'images, là, mais que ce livre, il va se refermer au bout de 5 ans. Il peut ne pas se réouvrir du tout, de toute notre vie, ou il peut se réouvrir pour une partie de 5 ans de plus. Et il faut le remplir, ce livre. Il faut y mettre plein d'images, il faut y mettre plein de souvenirs, plein de compétences professionnelles que vous aurez développées grâce à cette mission à l'étranger. Mais il se peut, pour les hasards de la vie, que ça se termine plutôt que vous l'aviez anticipé et que vous soyez amené à rentrer. Donc, il ne faut pas que vous rentriez aussi dans une déception totale. Il faut que ça s'anticipe, ça se prépare. Ce n'est parfois pas simple, mais c'est une vraie réalité. Et nous continuons à travailler avec nos collègues du ministère, je l'ai déjà dit, pour essayer d'accompagner au mieux ces retours de personnel de direction, parce que vous êtes faites partie de l'équipe de direction, au sein des départements, dans les académies. On commence, il y a un travail qui est fait par la direction de l'encadrement du ministère pour identifier un peu tous ces métiers à l'étranger et comment on peut accompagner au retour certains personnels. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour tout le monde et on a à chaque fois des situations un peu complexes gérées par les DASEN qui n'ont pas la vraie connaissance de ce qu'est le métier de directeur parfois à l'étranger, qui n'ont pas conscience, par exemple, sur la formation continue, sur l'utilisation, par exemple, avec ce qu'on a vécu de la COVID, des outils informatiques, et ce n'est pas la maîtrise d'éthique, tout ça c'est fini, ça. C'est les outils de la gestion des outils informatiques au bénéfice de l'enseignement pour travailler à distance avec des élèves. Aujourd'hui, l'agence a été un moteur dans ce travail-là, grâce aux équipes sur le terrain, c'est-à-dire au personnel qui est sur le terrain, à nos IEN, à nos directeurs d'école, à nos EMFE et aux enseignants, in fine. Et tout ça, ça fait partie, si vous voulez, d'un plus que vous devez être en capacité de ramener en France et de pouvoir partager à votre retour dans les départements où vous allez être affecté. Alors, j'espère que je ne vais pas choquer, ce n'était pas le but, mais je pense quand même que ça fait partie, si vous voulez, de ce projet professionnel qui doit intégrer ce parcours à l'international. C'est bien dit ça. C'est donc un projet professionnel avec un parcours à l'international.
Et ça peut susciter, en étant membre de l'équipe de direction aussi, des envies de changement et de passage du concours, de perdre. Et là, de toute façon, c'est un retour en France obligatoirement avec une période minimale de service à effectuer et pourquoi pas un retour ensuite avec cette autre qualification en tant que chef d'établissement dans le réseau, repartir pour 5 ans ou pour 10 ans. Voilà.
Puisqu'il est question de nouvelles fonctions potentielles à venir après, je voulais juste ajouter un petit élément complémentaire en tout cas à ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que ces profils de poste, vous l'avez peut-être constaté, on a organisé 2 webinaires sur le premier degré. Tout à l'heure démarra un webinaire consacré aux formateurs du premier degré, donc les conseillers pédagogiques, les maîtres formateurs. Bien sûr, tout ça est fongible. Il est très possible que vous ayez peut-être une double casquette. et que rien ne vous empêche à ce titre de candidater sur différents profils. Alors, si vous cochez les cases, ne vous en privez pas. Enfin, je veux dire, tout dépend effectivement de vos choix, de votre stratégie aussi, vers quoi va votre appétence sur des fonctions de direction, sur des fonctions de formateur. Mais voilà, sachez que c'est fongible et qu'on accueillera de toute façon, on étudiera toutes les candidatures, quelles qu'elles soient. Hein, voilà.
Il y avait une question, Christine, justement, oui, sur la nécessité d'envoyer une version papier à l'IEN.
Pourquoi envoyer une version papier? Tout simplement parce que ça évitera peut-être à votre IEN d'avoir à imprimer le dossier, de mettre son avis, parce que ce sont des fichiers PDF, hein, donc de mettre son avis, de rescanner le document, etc. Moi, après, vous faites comme vous voulez, en fait. Hein, vous voyez avec l'IEN, mais à quoi il sera le mieux disposé, en tout cas.
Ce qu'il faut, c'est qu'il dispose d'un exemplaire de votre dossier pour mettre son avis et voilà, ensuite le transmettre au DAZN.
Alors, une question sur 9 années consécutives déjà accomplies à l'étranger, sont-elles toujours éliminatoires?
Elles ne sont pas éliminatoires. Il ne s'agit pas d'éliminer quoi que ce soit, qui que ce soit. Il s'agit d'être versé à ce moment-là dans un vivier, dit vivier complémentaire, et qui, de toute façon, reste. On a toujours un regard, hein, sur ce vivier, puisque on peut être amené à piocher dans ce vivier complémentaire à un moment donné, si nous, on ne trouve pas non plus à un moment donné, si ça ne croise pas le regard, hein, toujours pareil. C'est toujours pareil, hein, c'est une question d'offre et de demande. Hein. On a quand même un certain nombre de postes à pourvoir, des postes qui sont voilà, peut-être moins attractifs que d'autres. On n'a pas beaucoup de candidats, on peut même le dire. Et si on ne trouve personne, on ira effectivement chercher dans le vivier complémentaire. Ce n'est pas rédhibitoire. Hein.
Alors, des questions pratico-pratiques, les entretiens se font-ils à Nantes ou bien en visio?
On n'en sait rien.
Bon, c'est difficile à dire, ça risque d'être en visio, puisque ça fait 2 ans qu'on fait en visio et qu'on maîtrise aujourd'hui cet outil, oui, et que je pense qu'en termes d'équité, ça a permis à tout le monde, oui, d'avoir des entretiens qui étaient sur le même niveau à la fois de durée, de jury et de d'échange, hein. Donc je pense que là-dessus on a énormément progressé, on n'a pas eu de problème l'an dernier. Donc c'est vrai que l'entretien en présentiel, il a la chance et ça nous permet à nous de vous rencontrer physiquement, vous savez, dans l'entretien il y a une partie aussi qui est liée à la connexion, je dirais, interpersonnelle qui va se gérer dans l'entretien, que forcément avec l'écran on ne voit pas toujours et voilà. Bon, certains s'expriment plus avec les mains que d'autres, hein, je le sais, mais voilà, quand on est en présentiel, c'est différent. On entend parler de la 8e vague là, qui arrive, si j'ai bien compris, ne soyons pas trop pessimistes, mais bon, sachez qu'en visio, on sait faire et que du coup, ça permet surtout une équité totale pour tous les personnels. Donc, partons sur l'idée qu'on sera plutôt en visio, qu'on va le gérer, vous recevrez les codes, et s'il y a un problème, est arrivé une fois ou deux, on a eu un problème de connexion, on a reporté l'entretien, on vous met dans les meilleures conditions pour que vous puissiez tous passer ces entretiens dans les meilleures dispositions possibles. Après, on vous embête beaucoup avec nos questions, mais dans les meilleures dispositions possibles.
Il y a une question là sur la lettre de motivation, doit-elle être manuscrite? C'est vraiment, faites comme vous le sentez. Enfin, vraiment, il n'y a pas de...
Une obligation.
C'est pas une obligation, faites une lettre de motivation. Voilà, j'ai envie de dire qu'elle soit le plus pertinente possible. Et puis, voilà, faites surtout comme vous le souhaitez.
Comment contacter les personnels en poste?
Sur le site de l'AEFE, vous avez l'annuaire de tous les établissements. Je pense que le plus simple, c'est de prendre contact avec le mail de contact qui arrive souvent au secrétariat de l'établissement en demandant les coordonnées en fait, du directeur d'école en poste. Il n'y a pas d'annuaire plus détaillé. Pour tous les personnels, peut-être sur certains établissements, en allant sur le site de l'établissement lui-même, vous aurez peut-être un contact pour le directeur ou la directrice d'école.
Mais en tout état de cause, n'hésitez pas à le faire, hein. Vous êtes tout à fait légitime, hein. Vous candidatez, vous souhaitez partir à l'expatriation, on sait que c'est quand même, sont des projets qui sont à mettre en place, voilà, qui demandent beaucoup d'organisation, de réflexion, et vous êtes légitime à vous renseigner sur le terrain, hein. C'est vraiment Donc, n'hésitez pas à le faire, en effet.
Une question sur le chat aussi concernant les avis pour les personnes en disponibilité. C'est indiqué dans la note de service, il faut revenir vers votre dernier IEN et DAZEN, enfin, sur le dernier poste que vous avez occupé.
La note sur les détachements que vous trouvez au bulletin officiel du ministère de l'Éducation nationale. Voilà.
C'est le BO du 31 août. Le lien vers le BO est sur le site de l'AEFE, sur la page concernant le recrutement.
Une limite d'âge?
Non, il n'y a pas de limite d'âge pour nous aujourd'hui. La seule limite qu'on pourrait avoir, c'est si, vu votre âge, vous n'êtes pas en capacité d'assumer les 3 ans du premier contrat que nous vous proposons. Mm-hmm. Là, la limite d'âge s'impose. Si vous êtes en capacité d'assumer ces 3 premières années, si votre dossier est excellent et si vous faites un entretien de très grande qualité, nous aurons le plaisir de vous accueillir.
Absolument.
Après la réintégration, après combien de temps on peut repostuler? Mais là, c'est pareil, on vous renvoie un peu à la note de gestion du MEN, puisque
c'est 2 ans.
Après, voilà, nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, le contrat et la possibilité de vous recruter sera lié à l'obtention d'un détachement. Certification. CAPEF.
De toute façon, il y a des questions auxquelles on ne répondra pas, puisque si vous voulez, elles sont trop personnelles. Et donc, n'hésitez pas, verrez à la fin du diaporama, vous aurez l'adresse de Madame Sandeau, un numéro de téléphone.
N'hésitez pas à m'appeler.
Voilà, vous appelez sur vos problématiques personnelles. Et donc, on aura à ce moment-là, si vous voulez, l'occasion de répondre à chacun de vos questionnements pour que nous puissions vous apporter les derniers renseignements nécessaires à vos interrogations.
Les vaccins, oui, en fonction des zones, en fonction des pays, des autorités locales. Et ça, ce sont des informations qui nous sont communiquées de toute façon par la gestion administrative. Il y a une visite médicale qui vous est demandée aussi de passer, puisqu'en fonction des pays, en fonction des conditions climatiques, par exemple, il se peut qu'il y ait des incompatibilités et il faut que vous en soyez conscient au moment de partir au pays ou en altitude, par exemple.
Je vois qu'il y a une question là également sur le fait de pouvoir refuser le détachement, que l'Éducation nationale puisse refuser le détachement. Bien évidemment, vous n'êtes pas. Il s'agit bien d'un détachement. Donc c'est sous réserve de l'accord de la tutelle. Je l'ai expliqué tout à l'heure. Hein. C'est vraiment une proposition de poste peut être faite sous réserve de l'accord de détachement.
Voilà. L'ancienneté dans le département en France est-elle conservée? Mais forcément, en fait, vous allez avoir une double carrière en arrivant à l'AEFE. Vous avez
pour le mouvement.
Ah non, pour le mouvement, oui, non. Alors non.
Pour le mouvement, tout ce qui concerne les règles de réintégration et de participation au mouvement à la fin du contrat, il faudra vous rapprocher de votre département d'origine. Ce sont des règles d'éducation nationale qui vont s'appliquer. Donc, on n'est pas en mesure de vous répondre sur la prise en compte de l'ancienneté. Si vous avez des points supplémentaires, ce sont des règles éducation nationale qui peuvent en plus être amenées à changer d'ici 5 ans. Donc, il faudra vous référer au texte concernant la mobilité.
C'est vrai que si vous avez une certification en langue, il faut la mettre dans le dossier. Mettez-la, parce que nous… Il y a du déclaratif, mais c'est bien de mettre une certification. Elle peut nous être demandée ensuite par le poste diplomatique ou par l'établissement. Oui. Donc, si vous avez… Il est tôt, là, nous sommes au mois de septembre. Donc, si vous vous inscrivez à des cours, même vous pouvez nous le faire parvenir après. Exactement. Vous nous faites parvenir la certification que nous joindrons à votre dossier si jamais vous êtes retenu. Donc, je vous invite à poursuivre dans cette réflexion sur la maîtrise de la langue. Et je souhaite vous rassurer aussi, les compétences du métier de directeur sont les mêmes à l'étranger qu'en France. Par contre, elles ne s'exercent pas de la même façon.
Mm-hmm. Il y a des questions pour savoir si vous pouvez revenir dans un pays dans lequel vous avez été enseignant résident. Vous pouvez, en fait, mais on apprécie qu'il y ait une période d'environ 10 ans avant de pouvoir revenir dans le même établissement, la même ville. C'est pas le, par rapport au positionnement en tant que directeur d'école quand vous étiez enseignant. L'agence privilégie en fait des candidats qui n'ont pas été dans l'établissement depuis 10 ans.
Sur la liste d'aptitude, c'est une obligation.
Mais la liste, il y a plusieurs questions. La liste d'aptitude, elle est indispensable pour pouvoir obtenir un poste de directeur d'école à l'étranger, couplée avec une expérience de direction d'école conséquente, comme vous l'indiquez, Christine, c'est en général 8 classes en France. Il y a des collègues qui ont le 2DEAS, un directeur d'établissement spécialisé. Nous, ce qu'on recherche, c'est quand même une expérience de direction d'école primaire en France, qui est vraiment c'est le métier en fait à l'étranger, c'est une direction d'école primaire. Donc, on va vraiment chercher cette expérience, d'où l'exigence de la liste d'aptitudes de direction d'école. La question sur la liste des postes qui est susceptible d'évoluer, oui.
Alors oui.
On l'a évoqué tout à l'heure, c'est pour cela qu'on vous engage à faire des vœux géographiques les plus larges possibles, enfin réfléchis, mais bon, les plus larges possibles.
Si des postes viennent à se libérer, effectivement, on ira voir les vœux formulés
pour vous proposer éventuellement un poste qui se libère après cette publication de poste.
Il y a des questions sur les vaccins, notamment le Covid ou bien des choses comme ça. Je vous invite quand même aussi à regarder ce qui se passe sur le site Conseil aux voyageurs,
oui.
Qui se trouve sur le site du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Aujourd'hui, la vaccination peut être obligatoire dans certains pays. Elle ne l'est pas dans d'autres, mais vous devrez certainement faire encore des tests et prouver que vous n'êtes pas porteur du virus. Ça existe encore dans certains pays. Donc, tout ça, il faut le regarder. Et puis, c'est susceptible d'évoluer en fonction de l'épidémie. L'an dernier, on a eu une nouvelle vague très importante en Asie qui a encore perturbé énormément l'enseignement et les personnels qui étaient sur place. Donc, renseignez-vous dès maintenant. Si vous n'êtes pas vacciné, et s'il faut être vacciné, si vous n'êtes pas, vous ne pourrez pas y aller. Il faut être très clair avec ça. En revanche, vous avez tout le temps nécessaire, si vous souhaitez, pour mettre à jour des vaccins, de telle sorte que s'ils sont exigés, vous serez tout à fait en capacité de produire ces vaccins pour montrer que vous êtes dans les règles pour intégrer un pays. Donc, ce conseil aux voyageurs, alors ne prenez pas tout à la lettre parce que des fois, ça fait peur. Quand vous y allez, vous vous demandez pourquoi vous y allez. Mais c'est vrai que ça donne quand même des éléments sur… on sait par exemple qu'aujourd'hui en Afrique, on a une recrudescence de l'Ebola, qui est une maladie qu'on a connue, qui repart un petit peu dans certains pays. Voilà, ça fait partie des choses, c'est pas dramatique en ce moment, mais ça peut arriver. Renseignez-vous, prenez des informations sur le pays, sur la vie dans le pays, sur l'installation dans le pays. Je pense qu'on n'en a pas parlé, mais c'est aussi important. Aucun de vos postes n'est logé. C'est-à-dire que tous vos postes vous devrez chercher de vous-même une location, un logement pour avant de commencer ce métier. Mais bien entendu, vous n'êtes pas le premier directeur dans une école et j'espère que vous ne serez pas le dernier. Et donc, il y a déjà, vous renseignez auprès de l'établissement, auprès du collègue que vous allez remplacer, auprès des collègues, si vous connaissez des collègues sur place, vous aurez une idée des coûts, vous aurez une idée de comment gérer ce logement par rapport à la charge, enfin à ce qui se passe dans le pays et aux coûts financiers que cela peut représenter. Donc, le contact avec le pays, ça a été dit tout à l'heure par ma collègue, le contact avec le pays via le site, via les chefs d'établissement, via les secrétariats de chefs d'établissement, c'est hyper important. Et puis après, si vous pouvez avoir un contact direct avec le directeur, c'est encore mieux. Mais là, il ne faut pas oublier que nos collègues sont en plein travail et voilà, il faudra trouver les moments pour trouver un créneau pour échanger avec eux. Voilà, je crois qu'on a fait. Alors, il y aura d'autres questions peut-être. Il y a peut-être d'autres éléments que vous pouvez peut-être nous faire passer. Mais si on recherchera vos questions et on vous rapportera les réponses.
Toujours. Donc, n'hésitez pas à m'appeler. On est là pour vous renseigner.
Je crois que voilà, on a terminé. On va vous remercier d'avoir assisté à ce webinaire. Moi, je vais remercier mes collègues ici présentes pour le travail qu'elles font sur l'encadrement, si vous voulez, et la préparation de ce recrutement. Donc, elles sont disponibles. Tout le monde est à votre disposition pour vous donner des informations, pour compléter les éléments. Si encore il y a des sujets qui vous inquiètent et qui font que vous avez un doute, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis, écoutez, je vous souhaite une très belle rentrée, puisqu'on vient de commencer là, hein, donc une très belle rentrée 2022-2023. Et puis, à bientôt. Merci à vous toutes et tous.
Merci à toutes et tous.
Au revoir. Au revoir.